Bonjour à tous, et avant de commencer peut-être le message, je voudrais quand même qu'on continue à prier dans cet élan de cœur et aussi pour se encourager comme, c'est vrai, Rebecca nous l'a fait, de se lever. C'est vrai qu'il y a plein de besoins, il y a plein de choses, et moi je veux encore prier pour cela. Oui Père, tu nous mets devant des défis, tu nous mets devant des besoins, et tu nous dis aussi que forcément, on est tous des fois des serviteurs inutiles. Mais ça, ce n'est pas une excuse, parce que tu dis aussi que nous devons nous lever. Et Père, nous voulons nous lever, c'est vrai pour toi, parce que ce que tu as au-devant de nous, c'est ces œuvres bonnes qui sont préparées à l'avance. Et tu veux, malgré notre situation, malgré nos échecs, malgré nos doutes, tu veux te servir de nous, parce que c'est pour ça aussi que tu nous as choisis, c'est à cela aussi que tu nous as prédestinés. Et veuille travailler nos cœurs encore durant ces heures, ces jours, ces mois qui passent, pour que nous puissions nous approcher toujours plus de toi. Et merci de temps en temps de nous réveiller, de nous tenir comme ça, de nous secouer pour que nous puissions, c'est vrai, réagir. Et tout cela, Père, nous voulons te rendre grâce parce que tout cela vient de toi, vient de ce travail que tu veux faire à travers nous et par les uns et les autres. Par les dons que tu donnes aux uns et aux autres aussi. Sois loué, Père, de cela encore ce matin. Amen. Bon, il y a 3 semaines, nous avons fait un voyage en Israël, en famille, et puis nous étions aussi avec des chrétiens de la région. Et puis forcément, quand on fait ce style de voyage, il y a beaucoup de choses qui nous interpellent. Et donc moi ce matin, je vous propose simplement de vous partager un peu ces réflexions, ce qui a mûri un peu comme ça dans ma méditation. Et forcément, c'était une semaine vraiment très riche, parce que on était, bien sûr, avec des chrétiens. On avait de plus un guide qui était un juif messianique et qui avait cet amour vraiment contagieux de la parole de Dieu. Et donc c'était très intéressant de matérialiser, de visualiser ces différents lieux. Et cela nous a permis un peu de se rendre compte du contexte social, du contexte religieux de l'époque, et aussi des distances qu'ils parcouraient souvent à pied. Et puis aussi une chose, c'est ce contexte aussi religieux actuel qui m'a profondément aussi un peu bouleversé. Alors bien entendu, on n'a pas besoin de faire un pèlerinage pour croire. Nous croyons parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on a vu ou on a cheminé ou touché quelques lieux qui sont chargés d'histoire. Mais néanmoins, on vient de ce voyage avec de nouveaux éclairages et qui peuvent, je pense, nous édifier tous. Et c'est pourquoi c'est aussi, s'il y en a qui ont l'occasion de faire ce voyage, moi je les encourage à participer à cela, à en profiter. Alors bien sûr, le sujet il est quelque peu orienté au travers de ma perception des choses, mais lors de cette visite où nous avons pu faire le tour des principaux lieux bibliques, ce qui m'a profondément interpellé, c'est donc le nombre de personnes qui visitent ces lieux, la diversité des nationalités qui étaient présentes, et ça souligne vraiment l'attraction qui est portée sur cette terre, et de l'autre, l'idolâtrie importante qui est manifeste dans tous ces hauts lieux. Ainsi donc, en fonction des endroits que l'on a parcourus, on retrouve, bon ça c'est principalement le sabbat, mais ça m'a touché, donc des orthodoxes, des juifs orthodoxes qui étaient pressés vraiment de rentrer avant le coucher du soleil pour le sabbat, il y avait des Nigérians qui étaient euphoriques, il y avait plus loin des Coréens qui étaient en train de chanter, il y avait des charismatiques indiens qui étaient bruyants, un peu plus loin des catholiques français qui méditaient, des orthodoxes russes qui étaient en procession, et puis ils étaient suivis par des orthodoxes arméniens, des orthodoxes russes, grecs, et tout ça c'était couvert aussi par le chant du muezzin qui était craché par les haut-parleurs dans ces rues arabes. Voilà le contexte, principalement à Jérusalem. Et tout ce nombreux monde, dans une période de l'année où pourtant le tourisme n'est pas à son apogée. Bref, il faut le voir pour le croire. Et bien sûr, ce qui vient vraiment de suite à l'esprit, et ça va dans la continuité aussi de la série sur les promesses de Dieu que l'on a entamée, Cette promesse qui est faite à Abraham, le père des croyants. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, là, je vous propose de le lire. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Alors finalement, quoi de plus étonnant quand on lit ces promesses ? Eh bien, de se retrouver là-bas, dans ce pays, avec toute cette foule, donc de juifs, de chrétiens, de musulmans, et qui se réclament tous de cette promesse qui a été faite à Abraham, qui est le père des croyants, et au sujet de cette terre, précisément, qui a été donnée par Dieu. Il est vrai que la première chose là-bas que l'on réalise, lorsqu'on arrive là-bas, c'est que ce pays est bien le pays de la promesse pour les juifs, pour les chrétiens et les musulmans. Et on réalise vraiment très fortement cet antagonisme aussi qu'il y a entre les juifs et les musulmans, et puis avec les chrétiens qui sont au milieu, qui revendiquent bien entendu aussi une participation à cette promesse grâce à l'œuvre que Christ, par sa mort, nous a approchés, il nous a greffés, comme dit la parole, il nous a rendus participants à la vie éternelle. Alors comme on le lit dans ce passage, cette promesse concerne une seule grande nation. Et évidemment, les juifs et chrétiens qui se réclament, eux, de l'héritage dans la filiation d'Isaac, fils de Sarah, et aussi les musulmans, dans celle d'Ismaël, le fils de la servante. Ainsi, l'islam, contrairement à ce que nous lisons dans la parole de Dieu, donc ça c'est dans le chapitre 22 de la Genèse, il considère que c'est Ismaël qui a accompagné Abraham au pays de Morija et non pas Isaac. Et donc d'où cette légitimité qu'ils ont, finalement, tout le monde musulman a revendiqué aussi des territoires dans ce pays. D'autant plus que c'est à Jérusalem, à partir du mont du Temple, que Mahomet serait monté au ciel. En tous les cas, c'est comme ça que ça a été interprété. Et c'est la raison pour laquelle Mahomet a son célèbre mausolée, avec le dôme doré que l'on voit souvent, de 80 kilos d'or sur le mont du Temple. Ainsi, toutes ces religions monothéistes sont représentées et on s'aperçoit bien vite que chacune d'elles a cherché à s'accaparer le moindre parcelle de terre sainte susceptible d'avoir été le témoin d'un événement particulier pour en faire de suite un haut lieu. Alors même si on remarque qu'il y a une entente entre les chrétiens orthodoxes et catholiques pour se partager les hauts lieux du christianisme, on constate malgré tout la pression de l'islam pour vraiment marquer de sa présence ces endroits. Dans la mesure du possible, si des églises ont été construites, alors des mosquées ont été construites par la suite, là toute proche. Et si la justice israélienne s'est opposée à une construction d'une mosquée, les rues, elles, de suite à côté, sont équipées d'haut-parleurs pour diffuser les chants de muezzin et les versets du Coran sont affichés dans les rues. Il y a même un lieu à Jérusalem, découvert il y a quelques années, juste la photo, et qui est considéré par les protestants comme le Golgotha, car il y a une forme d'un crâne dans le rocher. Et il y a un jardin tout proche, juste avant, dans lequel il y a un tombeau, et on reconnaît bien l'emplacement très plausible de la pierre qui a été roulée. Et là aussi, dans ce lieu récemment découvert, qui se trouve donc dans un quartier arabe de Jérusalem, si vous voyez bien, au-dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, au-dessus, à l'emplacement même des croix, il se trouve un canon. Et ça, c'est le canon du Ramadan. C'est lui qui donne le signal une fois par an pour tout Jérusalem. Et pourquoi ce canon est là, à cet endroit ? Parce que c'est sur ce même moment qu'Abraham a obéi en voulant offrir Isaac pour nous et Ismaël pour l'islam. On voit aussi qu'il y a des versets un peu plus du Coran qui sont juste là. C'est pour montrer quand même cette opposition, cette pression qu'il y a de la part de l'islam aussi sur cette terre. Et puis bien sûr, pour finir la totale description, il y a les juifs qui sont là forcément, ils sont spectateurs aussi de tous ces va-et-vient des touristes, et qui, eux, de toute façon, ils considèrent c'est leur terre qui est totalement sainte, et puis bien sûr principalement Jérusalem. Donc en étant témoin de toutes ces choses, on ne peut que constater cette tension entre ces différentes communautés, et même si tout cela se déroule à Jérusalem, qui est, rappelons-le, la ville de la paix. Et donc on est là observateur de cette situation, et s'il y a même quelques humanistes qui croient encore à une paix possible entre les Israéliens et les Palestiniens, et ça grâce à la bonne volonté des hommes, il faut vraiment se rendre compte, à l'évidence, que ce conflit vraiment dépasse les enjeux politiques et que nous sommes bien, bel et bien témoins d'un combat spirituel dont Jérusalem est l'enjeu central. Ainsi, le diable, dont l'activité incessante vise à détruire l'œuvre de Dieu, il s'active pour soulever ses peuples les uns contre les autres. Il n'a de cesse de s'opposer aux fils d'Abraham, aux fils d'Isaac et de Jacob, qui sont eux les enfants de la promesse. Et tant qu'à faire, s'il peut faire de Jérusalem un lieu d'idolâtrie de toutes sortes, et ça c'était déjà le cas vraiment au temps de Jésus, ou s'il peut faire aussi de Jérusalem un lieu de douleur, comme c'était aussi le cas avec les Romains au temps de Jésus, il ne s'en privera pas. Et c'est pour cela que ce conflit dure, sans que tous les efforts politiques pour amener la paix aient un effet. Quand on lit les textes prophétiques de Zacharie 12, qui datent de 500 ans avant Jésus-Christ, on peut faire vraiment que faire le constat maintenant, c'est ce que nous observons. Voici, dit Zacharie, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Et ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et un peu plus loin, verset 6, cette promesse, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Est-ce qu'il y a dans le monde une terre qui a été autant le théâtre de conflits, d'attentions particulières de la part des nations étrangères pour tenter de faire aboutir des accords de paix, et puis ça pas seulement vraiment ces dernières années, mais aussi durant les siècles passés? Et pourtant, comme on le lit, Jérusalem est toujours à sa place. Le fait déjà de considérer la création miraculeuse de l'État juif en 48, à partir vraiment d'un résidu juif, mais appauvri, qui sortait des camps de concentration, après avoir été dans les camps de concentration, ils ont été réunis dans un autre camp à Chypre, parce que les Anglais, les Arabes, les Jordaniens, les Égyptiens s'y opposaient totalement. Donc il y avait même une idée en disant, on ne veut pas les mettre à Israël, on va leur donner une terre en Angola. Donc c'est Angola leur pays. Il y avait tout été prévu pour ça. Et ça, c'est bien la preuve, finalement, de l'incapacité des pouvoirs politiques de ce monde à gérer la situation en Palestine. Et puis, donc, de façon inexplicable, Israël traverse les années et continue sa construction. Et voilà ce qu'on lit quand même dans ce que Dieu dit sur ce pays, parce qu'il dit qu'il a un regard tout particulier. C'est dans Deutéronome 11, verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux et la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Et ça, ces versets font partie intégrante de la culture juive. Tout comme la prophétie d'Ézéchiel 37, je ne sais pas si vous voyez, mais qui explique la reconstruction d'Israël en prenant l'image d'un squelette et qui se recouvre peu à peu de chair pour finalement devenir un être vivant. Tout cela est donc de plus en plus ancré dans l'esprit des Israéliens, et même parmi les moins orthodoxes, les plus ouverts. Et puis régulièrement, je ne sais pas, vous entendez dans les informations, il y a des colonies juives qui sont créées dans des territoires palestiniens. Officiellement, c'est parce qu'il leur manque de la place, mais vous allez là-bas, il leur reste quand même beaucoup de place. Et depuis 2 ans, donc, il y a un mur de 60 km de long sur 8 mètres de haut qui a été construit sur la frontière autour de Jérusalem pour protéger Israël des attentats suicides. Et donc, il y a quand même une tragédie. C'est donc le peuple palestinien qui paye le prix. car il revendique aussi l'occupation sur cette terre avec Jérusalem comme capitale. Et ils sont privés des biens et de la situation économique plus favorable d'Israël. Pourtant, il semble que Dieu avait prévu une toute autre alternative pour les étrangers qui demeurent dans ce pays. Et ça à condition, bien sûr, qu'ils se détournent de leurs idoles. Et vraiment, c'est ce qu'on lit aussi dans Deutéronome 10, verset 17. C'est que Dieu avait envisagé cela. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Alors que penser de cette situation? Ne sommes-nous finalement que des observateurs qui voient au fil des années des textes prophétiques qui prennent peu à peu leur signification? Ou bien pouvons-nous apporter une bénédiction à ces peuples? Et finalement, ça rejoint un peu cette idée aussi de se lever, parce que nous avons aussi des étrangers dans notre pays. Il y a aussi des veuves et des orphelins. Mais au-delà de ça, il y a le psalmiste qui nous exhorte à demander la paix de Jérusalem. C'est le psaume 122, verset 6, « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Et c'est un verset qui m'a frappé, parce que c'est un verset central entre les psaumes 121, 122, 123, et vous pouvez les lire à la suite. Et puis ils ont été imprimés en hébreu dans la synagogue du tombeau de David, et ça sur la montagne de Sion, à Jérusalem. Alors finalement, demander la paix de Jérusalem, c'est hâter le retour de notre Seigneur, et le moment où il posera ses pieds sur le mont des Oliviers pour amener la paix. C'est toute cette description que nous pouvons lire en Zacharie 14 ou Ézéchiel 47. Cette paix, c'est-à-dire la réconciliation entre les peuples et avec Dieu, elle sera là effective grâce à l'intervention glorieuse de Christ. Et ce qu'on peut lire un peu plus loin, donc à la suite, dans le chapitre 60 d'Ésaïe, au sujet de cette Jérusalem, déjà le verset 20 du chapitre précédent, « Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous y s'assemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Et le plus petit deviendra humilié, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Alors sommes-nous dans ce temps où l'Éternel va hâter ces choses? C'est vrai que Jésus lui-même nous exhorte à nous instruire de la comparaison qui est tirée du figuier dans Matthieu 24. Le figuier, c'est Israël. Voilà le verset 32 de ce chapitre. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Cette prophétie nous décrit cette même évolution dans la construction d'Israël. Et là, c'est Jésus qui nous le dit. Ce n'est plus un prophète de l'Ancien Testament. Et il nous dit que lorsqu'on observera toutes ces choses, son retour est proche. Ainsi, Israël nous est donné pour signe. Car les promesses de Dieu à son égard sont toujours effectives. Et parce que nous sommes directement concernés par ce qui s'y passe. L'apôtre Paul, dans les chapitres 9 à 11 de l'épître aux Romains, il ouvre son cœur, il livre ses sentiments concernant Israël, et il est triste de voir de quelle façon les Juifs cherchent la justice de Dieu. Juste ce deux versets du chapitre 10, verset 2, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont soumis à la justice de Dieu. Et cela encore, nous pouvons encore le constater. On peut le voir ici, quel zèle ils ont 2000 ans après. Quand on les voit prier à haute voix dans les rues, quand vous allez dans les hôtels et vous les chantez, dans toute la journée du sabbat, ils chantent. Mais néanmoins, tout cela est sans prix, car leur intelligence n'est pas renouvelée par le Saint-Esprit, du fait que c'est dit aussi dans la parole, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne rien voir et des oreilles pour ne rien entendre. Mais tout cela n'est pas perdu. Néanmoins, leur mise à l'écart, c'est ce qui a permis l'élargissement des promesses et la réconciliation du monde, et encore au-delà, cela nous permet à nous, enfants de Dieu, d'être greffés sur cette racine nourricière de l'olivier franc, et en attendant aussi que eux soient greffés tout à nouveau. Enfin, je vois encore un intérêt de s'instruire de la comparaison qui est tirée du figuier. Car Paul revient plusieurs fois sur l'exemple d'Israël, et dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, il ne veut pas qu'on ignore les grâces de Dieu à l'égard du peuple d'Israël, et malgré toutes ses désobéissances. Et d'après lui, tout cela n'est pas inutile. Par deux fois, il répète que tout ce qui leur est arrivé est pour nous servir à nous d'exemple. 1 Corinthiens 10, le verset 6, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et puis le verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc on est bel et bien à la fin des siècles. L'apôtre Paul nous le dit. Et toutes les errances, tous les faux dieux, les murmures du peuple d'Israël nous sont donnés pour notre instruction, à nous qui vivons peut-être et certainement sous la grâce. Mais au-delà de toutes ces histoires que nous lisons avec détail dans la parole, il y a maintenant ce peuple juif qui a réparu miraculeusement et qui se reconstruit conformément aux promesses de Dieu. Et cela aussi, c'est un témoignage de la véracité de la parole de Dieu. Ainsi, comme Dieu s'était choisi initialement le peuple d'Israël pour y faire habiter son nom, maintenant aussi Dieu habite dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit. Les promesses concernaient un peuple, elles nous concernent maintenant individuellement. En attendant le retour de notre Seigneur, nous devons veiller à notre manière de vivre et à prier, car nous ne savons pas quand il reviendra. En observant la situation actuelle d'Israël, ce pays, comme on l'a lu, dont l'Éternel prend soin et sur lequel il a continuellement les yeux, que voyons-nous ? Il y a quelquefois des combats qui sont liés au conflit du passé. Il y a beaucoup de voix discordantes là-bas. Il y a des idoles, il y a de la provocation, il y a des souffrances qui sont encore à venir avant la délivrance promise. Et dans tout cela, on ne peut que se retrouver dans notre propre vie aussi d'enfant de Dieu. Nous sommes nous aussi en proie à des luttes qui nous égarent de la foi, à des épreuves qui sont liées à des blessures du passé. Quelques-uns d'entre nous sont éprouvés dans leur corps. Autour de chacun de nous, c'est une certitude, l'ennemi rôde autour de nous, cherchant qui il va le dévorer. Mais comme pour Israël, l'Éternel a continuellement ses regards sur nous. Et il fait aussi concourir toutes choses pour notre bien. Nous savons aussi que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Plus que jamais ces promesses de Dieu sont vraies. Car s'il fait revivre miraculeusement tout un peuple qui a été égaré et divisé dans toute la surface de la terre, combien plus il nous fait revivre, nous, en nouveauté de vie, alors que nous avons accepté Christ dans notre vie. Comme nous sommes exhortés à prier pour la paix de Jérusalem, fortifiés par toutes les promesses de la fidélité de Dieu, nous sommes aussi appelés à veiller et prier pour nous-mêmes, pour être prêts à vivre les épreuves qui nous sont annoncées. Et dans toutes ces épreuves, il y a ces œuvres bonnes qui sont préparées aussi à l'avance. Il y a un objectif, il y a une délivrance. Mais ça se fait par cet élan du cœur aussi, à veiller et prier. C'est ce verset 21, verset 36 du chapitre 21. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Voilà, nous sommes en marche, nous sommes dans cette dynamique. Il y a tout un plan qui est prévu par Dieu, qui dépasse notre sphère ici de l'Église, dans lequel Israël aussi est là. On ne sait pas, c'est pas besoin de rentrer dans les détails pour savoir quand ça va se passer, ainsi de suite. Simplement, la parole nous dit, c'est proche. Mais on sait aussi que, comme il y a beaucoup d'étrangers dans ce pays d'Israël, il y en a beaucoup aussi d'étrangers autour de nous qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui n'ont pas entendu ce message. Et ce témoignage, c'est d'accueillir, c'est vrai, c'est lié un peu à ce que nous a préparé ce matin aussi Rebecca, c'est nous interpeller, à nous lever, et puis aussi à être touchés par cela. Mais notre rôle aussi, c'est de veiller et prier, et c'est ce que je veux faire pour terminer ce message. Oui, Père, tu nous mets devant tes objectifs, qui sont peut-être grands, énormes, inatteignables, qui nous dépassent. Mais au-delà du gros macrocosme Israël, il y a nos vies, il y a nos destinées, il y a nos simples vies. Mais tu veux aussi que cette même fidélité qui caractérise Israël doit nous caractériser aussi. Et merci parce que tous ces exemples que tu nous as mis par force de détail dans la parole sur ce peuple d'Israël dans tout l'Ancien Testament, c'est ce que nous pouvons vivre, c'est ce que nous pouvons aussi réaliser dans nos propres vies. Et on voit que malgré les temps, malgré les difficultés, malgré les épreuves que tu as suscitées pour ce peuple, tu as été fidèle. Et on voit que ta parole, tes promesses sont en train de s'accomplir. Et pour nous aussi, chacun individuellement, tu as une promesse. Chacun, tu veux que nous soyons greffé sur cet olivier franc. Tu veux que la vie déborde de nos branches. Et nous voulons te prier aussi pour notre communauté, que tu nous donnes cet élan de cœur à veiller, à prier, à nous lever pour toi. Tu vois l'opposition, tu vois les difficultés, on entend beaucoup de choses aussi dans notre pays, beaucoup de murmures, beaucoup de craintes. On veut te prier aussi pour la paix de notre pays. On veut continuer à intercéder pour tous nos gouvernants, pour nos chefs. Tu vois cette misère qui s'est abattue en Philippines. On veut te prier pour eux, pour que cette épreuve, cette difficulté que toi tu as permis, vraiment soit l'élément aussi déclencheur d'un réveil, d'un retour à toi. Et tu vois comme des fois il nous arrive, nous, de nous éloigner, et bien tu viens nous rapprocher. Tu permet que, pas que nous soyons tentés, nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et tout cela, Père, c'est des promesses que nous voulons réaliser encore plus, nous voulons encore grandir en toi, et c'est le but aussi de toute cette vie, de tout ce cheminement que tu permets à travers nos vies. Sois béni encore pour ta fidélité, parce que oui, ta parole est vraie, oui, ce que tes commandements sont vrais aussi. Tout cela est parfait et tu veux nous faire simplement rentrer dans toutes ces œuvres bonnes qui sont toutes préparées d'avance. Et merci pour cela, Père. Amen.
Merci à Pierre pour ce message. Pierre est venu bouleversé de son voyage. Il nous a fait part au conseil. Il était interpellé par ce message, cette visite. J'aimerais partager moi avec vous les annonces. Je vais un petit peu chambouler un petit peu par rapport à d'habitude. On a parlé de prière et de soutenir les uns les autres. Moi, je vous donne des sujets de prière importants pour cette semaine, pour chacun de vous. prier pour Didier qui est là parmi nous. On va continuer à prier pour Didier. Vous savez que si vous avez vu sur le site aussi que la décision d'une nouvelle opération a été prise. Donc on veut vraiment continuer à prier pour que Dieu, ça c'est Dieu qui guide tout ça. En tout cas, nos prières vont dans ce sens pour toi Didier et pour Loredan aussi. D'autres personnes soit ont été hospitalisées, soit vont l'être. Mélanie a été hospitalisée à Port-au-Prince, je ne me trompe pas, c'est à Port-au-Prince cette semaine. Philippe m'a dit cette semaine que c'était très douloureux, la dengue. Donc Mélanie, elle souffre de la dengue. C'est très douloureux, il y a pas mal de choses qui sont pénibles. Donc on veut aussi prier pour, vraiment prier pour Mélanie, qu'elle soit gardée là aussi. En tout cas, Mélanie a dit très clairement, je sens vraiment les prières des gens de l'Église. Ah, alors si elle est sortie, je n'ai pas la nouvelle. Alors elle est sortie, c'est tout récent, donc merci. Voilà, c'est une réponse à nos prières, ou à vos prières, mais continuez à prier quand même pour Mélanie. Merci, je n'avais pas les infos donc de fin de semaine. D'autres personnes qui vont être hospitalisées dans les prochains mois, c'est Jacques et Guylaine Cuypers, qui vont être hospitalisés les deux au tout début du mois de décembre. Donc là aussi, les infos qu'il y a sur le site sont juste pas mises à jour depuis hier. Ils vont être hospitalisés au début du mois de décembre pour chacun une opération aussi, avec un temps de convalescence après. Donc on peut prier aussi pour eux, parce que ça commence à être lourd aussi, ces opérations. Et puis Hélène Tadford sera aussi opérée au mois de fin novembre, je pense, hein, toute fin novembre. Donc on va aussi prier pour Briand le 6 décembre. Alors voilà, mais c'est aussi Jacques et Guylaine, je crois, seront opérés à la même date. Exactement, donc ça se chevauche un petit peu. On veut vraiment, vraiment prier pour Briand et Hélène, et aussi, moi je vous invite à prier aussi pour que la situation se clarifie aussi par rapport à leur maison, par rapport à leur avenir proche, leur déménagement, etc. Donc aussi un tas de choses, voilà. Donc beaucoup de temps à passer, si vous le voulez, dans la prière cette semaine, mais ces frères et sœurs, ils comptent sur vous et Dieu compte aussi sur nous dans notre engagement pour la prière. Voilà, pour les activités de l'Église cette semaine, cet après-midi, répétition pour la fête de l'Avent. On mange ici pour ceux qui le peuvent. Est-ce qu'on peut dire que les premières parties, les monologues, ont fait à 13h et les autres à 14h? Ça convient à tout le monde? Ok, on va comme ça pour ceux qui sont concernés. On essaye, pour ceux qui ne restent pas manger là, on essaye de faire en gros comme ça, hein, 13h et 14h. Okay, on fera en tout cas au plus vite pour que chacun puisse aussi profiter de son après-midi aussi. Donc ça, c'est pour la fête. Pour cette fête de l'Avent, j'ai deux infos à vous donner. Inscrivez-vous, s'il vous plaît, au fond. On a besoin que vous inscriviez. Et puis, il y a Philippe, que je ne vois pas, qui est là, qui va vous donner une petite demande d'aide encore aussi.
Alors, pour la fête de l'Avent, donc, on a des décors à préparer. On va réutiliser une bonne partie des décors qu'on a déjà, mais il y a quand même du boulot de préparation. Alors, on a besoin d'un coup de main pour de la peinture. Alors, il n'y a pas besoin d'une foule de peintres, mais deux, trois personnes. Donc, si des gens sont disponibles, vraisemblablement samedi prochain, peut-être dimanche, peut-être un petit peu dans la semaine d'après, pour finir les décors, contactez-moi, puis on organisera tout ça. Voilà, merci.
Voilà, je vais venir après.
Le dimanche 17, c'est aujourd'hui, hein.
C'est juste, ça, c'est pas. Ça, faudrait pousser d'un cran, là. Mais c'est bien, ça va venir. Merci, Hélène, merci, c'est bien. Voilà. On va venir à la semaine. Moi, je. Ah, vous voyez, hein. Mais enfin, il y a autre chose entre les deux, quand même, hein. Bon, c'est pas grave. Je vous invite encore à vraiment faire attention à des choses précises ici. La banque alimentaire, le 29 et le 30, on a vraiment, vraiment besoin de vos engagements. Il y a encore très, très peu de monde qui se sont mis sur le site actuellement, hein. On a besoin donc pour les samedis, les vendredis par exemple, et puis le vendredi et le samedi si vous pouvez à un moment, c'est aussi sympa. Donc allez sur le site, il y a les petits papillons pour joindre le doodle pour s'inscrire. On va remettre en place ici, en raison de besoins urgents, on va mettre en place ici dans l'église une banque alimentaire. maintenant, dès maintenant. Donc, vous pouvez participer très facilement, soit en mettant sur la table de la cuisine au sous-sol, de la nourriture. Attention aux choses périssables, hein. Évitez de mettre des choses périssables. Soit en mettant une enveloppe dans la caisse marquée « Banque alimentaire, église », hein. Ou alors à vous adresser directement à Lydie. Voilà les trois choses importantes. Donc, dès maintenant, vous pouvez vous en occuper. Si on a des besoins urgents, c'est des besoins urgents. Voilà. Merci pour ça. Je donnerai à la sortie, je distribuerai à la sortie aux membres des enveloppes de vote pour la suite de la réflexion sur la mise aux normes, sur etc., qui avait été repoussée suite à la réunion du 15 octobre. Ça a suivi, c'est prêt. On vous invite donc, tous les membres, si vous n'avez pas, à venir réclamer les enveloppes, et vous aurez jusqu'au 8 décembre pour remettre dans l'urne qui a déjà la place au fond vos réponses. Voilà, donc ça concerne les membres de l'Église. Si quelqu'un n'est pas membre de l'Église, est aussi intéressé par ce qui se passe au point de vue reconstruction, au point de vue mise aux normes, il peut me donner aussi, je donnerai les infos, il n'y a pas de souci, me demander aussi. Voilà, maintenant pour les infos de l'Église cette semaine, demain soir, conseil d'anciens, mardi après-midi, études bibliques pour les aînés, jeudi soir, 20h30, chorale. Samedi, 17h, explosion de louanges, c'est à Mury. Si vous avez envie de passer un bon moment, rendez-vous à Mury à 17h. Et puis, le soir cette fois, à Bellegarde, dans le projet de la mise en place de l'église de Bellegarde, il y a le one-man show d'Alain Auderset. Il y a aussi une affiche au fond et des papillons. Vous pouvez prendre... et inviter des gens, c'est vraiment fait pour tous les publics. Hein. Voilà, je crois que j'ai encore oublié une chose, c'est dimanche prochain, où nous avons dimanche prochain le marché de Noël, et là on a besoin de deux personnes pour l'après-midi pour être présents.
De 14h à 18h.
Et on peut aussi prier pour Craig, qui est coincé du dos depuis cette semaine, il a fait un excès de sport. Oui, c'est rigolo, mais c'est vrai. Voilà. Oui ? Groupe d'ados samedi, de 15h à 17h. Merci. Oui, Pascal, je ne t'ai pas oublié. Tu es sur la fin de ma liste. En partant, allez faire un tour à la librairie. À la librairie, il y a, comme on l'a dit, passé, arrivé, les envois de Noël qui sont à dispo. Et puis, il y aura une commande qui sera faite cette semaine encore à la librairie. Donc, allez-y, faites vos commandes. Vous bénéficiez du meilleur prix.
C'est le dernier jour pour la commande, aujourd'hui.
C'est le dernier jour. Ben oui, c'est pour ça, allez à la fin. Voilà. Merci, Thibault. Pierrick ? Il y a des belles affiches A3, noires, magnifiques, qui sont mises là-bas au fond. Vous pouvez les utiliser. À Rémi, encore ? On n'arrête plus ?
C'est 18h15 ici, ou 18h30 chez les Richards.
Ah.
Après, on ira à Belgique.
Parfait. Vous avez entendu, groupe de jeunes. Je pense que les infos suivent de toute façon. Je vous invite à vous lever. Je vous lirai encore deux versets suite à ce qu'on a entendu ce matin, c'est dans la fin de l'épître de Paul aux Corinthiens, où Paul dit aux Corinthiens, invite les Corinthiens, une église qui a aussi beaucoup de soucis, hein, beaucoup de problèmes, il les invite et leur dit, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez, c'est ce qu'on nous a dit ce matin, hein. Aller de l'avant, c'est progresser, hein. C'est la courbe qui monte, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, soyez costauds, fortifiez-vous, ce n'est pas que pour les hommes, hein. Soyez des gens solides, fortifiez-vous, que tout parmi vous se fasse avec amour. Et le chapitre se termine, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Paul leur dit, mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Que ce soit ce qui nous accompagne cette semaine. Amen. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, que Dieu vous bénisse.